Le fort de Barre, c'est 14 467 mètres carrés de superficie, dont 3 600 mètres carrés dédiés aux expositions. On y va ? Un voyage dans le temps, waouh, quelle histoire ! Le fort de Barre, à vol d'oiseau, pas si loin de Chamonix.
ATMB et Globule Radio vous proposent maintenant un voyage sonore au départ de Chamonix.
À vol d'oiseau.
La saison 2 de la chronique Tapis Volant pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont-Blanc.
En famille, nous avons fait un road trip en van en Italie cet été. Au retour, fatigués de la chaleur estivale, nous décidons de nous arrêter au bourg de Barre pour dormir à seulement 1h30 du tunnel du Mont-Blanc et donc de notre lit douillet. Et quelle surprise ! Comme nous cet été, mon tapis et moi, on décide de rejoindre le fort de Barre en Italie en passant par le col du Grand Saint-Bernard qui relie la Suisse et l'Italie. C'est donc un voyage dans trois pays que je vous invite aujourd'hui. Nous survolons Valorcine, toujours le même plaisir, puis en passant la frontière, nous jetons un regard sur le barrage d'Émosson que nous laissons sur notre gauche. La route est belle pour les motards sur la route du col de la Forcle en cette journée fraîche et ensoleillée d'automne. Nous surplombons Martigny et prenons la route de Verbier vers le col du Grand Saint-Bernard. De petit virage en petit virage, nous voilà au col. Nous passons au-dessus des hospices et du chenil des fameux chiens de Saint-Bernard. Après un stop au-dessus du petit lac, nous encapons la descente vers l'Italie et Aoste. Nous survolons ensuite l'autoroute de la vallée d'Aoste jusqu'à ce verrou glaciaire fermé par le fort de Barre. De l'autostrada, on le voit bien ce fort. Vous l'avez déjà remarqué, n'est-ce pas ? Si comme moi, vous n'aviez jamais fait le détour, faites-le. Le bourg est surprenant et vous plongera instantanément dans une autre époque. Le bourg, depuis toujours passage obligé pour entrer ou sortir de la vallée d'Aoste, s'est enrichi grâce à la circulation intense au commerce et au péage, conditions qui permettaient d'ouvrir des portes et qui ne furent abolies par la Maison de Savoie qu'en 1783. Jusqu'à cette date, toute la marchandise et même les animaux étaient minutieusement tarifés et catalogués. Par la route de Barre passèrent des produits exotiques et de luxe, comme le sel, les épices, la soie, des animaux comme des éperviers, des singes, des faucons et des chevaux de toute race. Allez-y, remontez l'unique rue au charme médiéval, c'est authentique. Et vous découvrirez de nombreuses maisons du 15e et 16e siècle. Il y en a 25 à peu près, répertoriées par les historiens de l'art pour leurs caractéristiques telles que les fenêtres à croisillons, les fresques murales, les fenêtres jumelées et les virets, c'est-à-dire d'audacieux escaliers en colimaçon. La maison Chaland, par exemple, date de la fin du XVe siècle. Elle est située sur la place centrale du bourg, en face d'une belle fontaine en pierre. Elle déploie ses fenêtres en pierre et de belles fresques qui ont été dégagées et restaurées il y a quelques années. Ainsi, en parcourant la seule route du bourg, il nous est permis de respirer une authentique atmosphère d'autrefois. Les toits d'ardoise, caractéristiques de la vallée d'Aoste, nous renvoient tout le soleil emmagasiné. Le fort de Barre est une forteresse construite au XIXe siècle par les souverains de Savoie sur un promontoire rocheux dominant le bourg de Barre à l'entrée de la vallée d'Aoste. Il représente l'une des plus imposantes forteresses des Alpes. La place forte possède trois principaux corps de bâtiments sur plusieurs niveaux entre 400 et 467 mètres de haut, 296 meurtrières, 806 marches d'escalier. En bas, l'ouvrage Ferdinand est en forme de tenaille et possède deux corps de bâtiments. Il accueille le musée des fortifications et des frontières. L'ouvrage Mortet, placé derrière ce dernier, et la poudrière mitoyenne accueillent les salles destinées aux laboratoires didactiques. À peu près à la moitié du rocher s'érige l'ouvrage Victor, où se trouvent les Alpes des enfants, un parcours entièrement consacré aux plus jeunes. Au sommet, le plus imposant des trois ouvrages comporte une enceinte sur laquelle s'appuient tous les corps de bâtiment et qui renferme l'ouvrage de Gola, sa cour, pouvant défendre le côté sud, et l'ouvrage Charles Albert et sa grande cour de la place d'armes entourée de grandes arcades. Le premier étage de l'ouvrage Charles Albert est consacré au fameux musée des Alpes. Les premiers habitats humains dans les gorges de Bar datent du 2e millénaire avant Jésus-Christ. À ce propos, soulignons l'importance des pierres à glissade des femmes, singulier lustrage des pierres formées au cours des siècles à cause de la curieuse pratique féminine liée à la fécondité consistant à glisser, assise, le long des pierres en pente. Le passage étroit entre la Dora Baltée et le précipice rocheux constitue depuis toujours un parcours obligé pour entrer en vallée d'Aoste. Le tracé de la route, taillé en grande partie dans la roche, remonte à l'époque romaine. Vu la position stratégique pour le contrôle des passages, le rocher de Bar dut être fortifié depuis au moins l'époque pré-romaine. Conquis en 1242 par Amédée IV de Savoie, le château et le territoire passa sous la domination directe des Savoies. Au cours du XVIIe et du XVIIIe siècle, les structures défensives de la forteresse furent agrandies et renforcées. Mais le plus célèbre événement dont le fort ait été le théâtre est le siège de mai 1800. À l'aube du 14 mai de cette année, les 40 000 hommes de l'armée de réserve de Napoléon passèrent le Grand Saint-Bernard pour surprendre l'armée austro-piémontaise. La descente du col par Napoléon et ses hommes fut rapide jusqu'à Bar où elle fut bloquée par la garnison autrichienne qui défendait la forteresse. Au cours de la nuit du 21 mai, une attaque fit capituler le bourg. Le commandant du fort ne se donna pas pour vaincu. Le plan du général Marmont, qui voulait faire transporter pendant la nuit les canons jusqu'au sommet du rocher, ne réussit pas. Les soldats français, ayant donné l'assaut pour l'énième fois, décidèrent d'assiéger le fort. Après une journée entière de bombardement, le commandant du fort signa la reddition, obtenant toutefois les honneurs de la guerre. À côté des passages ordinaires et de son histoire défensive, il y en a qui tranchent, parce que le nom de certains visiteurs est célèbre. À la suite de Napoléon, par exemple, se trouvait dans l'armée de réserve Henry Bayle, plus connu sous le nom de Stendhal, qui, à l'époque, n'avait que 17 ans. 36 ans après, dans son roman autobiographique « La vie de Henri Brûlart », Stendhal se souvient des jours aventureux qu'il avait passés dans l'armée de Napoléon et il décrit la bataille qui se passa au pied du fort, ce qui fut pour lui un vrai baptême du feu.
La canonnade de Bar faisait un tapage effrayant. C'était le sublime, un peu trop voisin du danger. L'âme, au lieu de jouer purement, était encore un peu occupé à se tenir. C'était la première fois que je découvrais cette sensation si renouvelée depuis. Me trouver parmi les colonnes d'une armée de Napoléon.
Le passage par le fort de Bar, le plus fameux, est sans aucun doute celui de Napoléon, car décisif pour le destin du fort. Exaspéré par cette résistance à laquelle il ne s'attendait pas, Napoléon fit raser au sol le vilain castel de Bar. Ce fut Charles Félix, craignant une nouvelle agression des troupes françaises, qui décida de refaire construire la forteresse en 1827 et confia le projet de reconstruction à l'ingénieur militaire Francesco Antonio Olivero. Les travaux durèrent de 1830 à 1838. La nouvelle forteresse était constituée des trois corps de bâtiments que l'on a visités tout à l'heure. Ce système de structure autonome, doté de casemates d'artillerie, permettait la défense réciproque en cas d'attaque ennemie. Dans son ensemble, la forteresse comptait 283 salles et pouvait accueillir 416 hommes. Les magasins pouvaient contenir des munitions et des provisions pour 3 mois. À la fin du 19e siècle, le fort était en plein déclin. Il ne prit jamais part aux affrontements importants de l'époque. Il servit de prison et par la suite de dépôt d'armes. Après que le domaine militaire l'a déséquipé et désarmé, puis radié définitivement du service en 1975, le fort a été racheté par la région autonome Vallée d'Aoste en 1990. L'ensemble du fort et du bourg de Bar est devenu un nouveau pôle culturel des Alpes occidentales à découvrir absolument. Si vous n'avez pas de tapis volant, prenez la RN205, puis le tunnel du Mont-Blanc direction Vallée d'Aoste.
À vol d'oiseau.
La saison 2 de la chronique Tapis volant. Pour étancher votre soif de mouvement au pays du Mont-Blanc.
À très vite pour un nouveau voyage avec ATMB et Globule Radio.